franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, les liens intergénérationnels avec le sociologue Serge Guérin.
En fait, ça fait très longtemps avec Pierre-Henri qu'on était un petit peu énervé par le débat ou par le fait que pour faire du succès, pour vendre du bouquin, il fallait dire on arrive à la guerre des générations. Mmh. Souvent d'ailleurs par des gens qui avaient bien profité du système et qui disaient maintenant non, c'est pas bien quand même ce qu'on a fait. Et nous on disait mais c'est quand même bizarre parce que on voit pas ça qui ressort. Donc alors il y a plein d'études déjà. On en a mis plusieurs, on en a même fait une avec Via Voice. Enfin voilà, il y a ces études là. Et puis on a construit une sorte de pas une sorte, un tour de France de l'intergénération en allant comme ça dans des lieux. Justement, ce qu'on a appelé des lieux du lien, c'est-à-dire des endroits où ça se pratique. L'activité physique, une organisation, une association comme Ciel Bleu, qui organise donc des jeunes profs d'activité physique, qui vont travailler, qui vont avec des gens plus âgés, voire très très âgés, voire parfois en grande difficulté physique, et comment les choses se passent, et comment, en fin de compte, des personnes à des âges très avancés peuvent, en faisant une activité avec des gens beaucoup plus jeunes, retrouver plus d'autonomie. Puis on est allé à un autre endroit où on était sur l'habitat. Par exemple, à Rennes, on se dit comment des gens jeunes, des gens plus âgés, des gens très âgés arrivent à vivre ensemble, non pas à cohabiter, mais à vivre ensemble et à construire à certains moments des solidarités entre eux, de la connivence, de la transmission, de l'expérience. Comment dans tel autre endroit, on va apprendre, l'université tout âge à Bordeaux par exemple, comment on va apprendre les uns des autres. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que sur le terrain, il se construit, alors ça ce sont quelques exemples, mais il y a des milliers et des milliers d'exemples. Alors parfois, c'est très connu, c'est... lire, faire lire, par exemple, ça a plus de 15 ans, c'est plus de 18 000 bénévoles âgés aujourd'hui qui viennent avec des enfants être autour du plaisir de la lecture. Puis c'est ailleurs, deux jeunes filles qui ont même pas 20 ans, qui ont créé En voiture Simone et qui sont allées filmer des gens âgés pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, qu'est-ce qu'ils avaient dans le ventre, comment ces solidarités se construisaient. C'est-à-dire pour montrer qu'en fait, il y a des milliers et des milliers de petits ruisseaux. Ouais. Et ces petits ruisseaux, ils sont en train de construire un joli chemin de l'intergénération.
Mardi, comment nos systèmes immunitaires se défendent face aux risques infectieux, avec Serge Morand.
Le système immunitaire, en fait, il n'a pas été fait pour contrer les maladies infectieuses, c'est d'abord le soi, et ça, souci intéressant. C'est-à-dire que le système immunitaire est capable de reconnaître le non-soi, parce que d'abord, il reconnaît le soi. Et donc, ça, c'est une particularité importante. Mmh. Et puis, on a un système immunitaire qui est fantastique, parce qu'il est aussi adaptatif, c'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir reconnaître... du non-soi qui, en fait, peut changer, qui peut évoluer.
Vous dites, il a besoin d'être éduqué.
Hein, en plus,
finalement, c'est
voilà,
ça.
Hein. Il a besoin d'être éduqué.
Ouais. Voilà. Vous prenez l'exemple du dégoût, d'ailleurs. C'est intéressant, ça, parce que vous parlez du rat, d'ailleurs, qui est consommé sur les marchés asiatiques que vous fréquentez de très près. Alors, le rat que certains adorent, et puis certains qui peuvent éprouver vraiment un dégoût. Ça, c'est un exemple, justement, de valeur adaptative contre les infections, cette réaction de dégoût.
En fait, c'est partagé partout. C'est-à-dire que si on est à table et qu'on voit quelqu'un qui commence à avoir des vomissements pendant le repas, généralement, on s'arrête de manger.
Ouais.
On regarde ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a mangé, et ça, c'est partagé partout.
Ouais.
Et il y a aussi un dégoût, on sait reconnaître, on a une tendance à reconnaître les aliments qui, en fait, peuvent présenter du danger.
Ouais. Les rats, d'ailleurs, aussi, puisqu'on parle d'eux, mais comme beaucoup d'aliments, en tout cas, sont très prudents sur les aliments qu'ils découvrent.
Tout à fait, tout à fait, très très prudents.
Ils vont pas s'embarquer n'importe comment.
Non, voilà. Donc c'est ça aussi un peu le côté entre ceux qui prennent du risque, c'est-à-dire qui ont peut-être gagné beaucoup, mais qui en même temps risquent l'infection, et puis ceux qui sont beaucoup plus prudents, mais qui vont pas forcément découvrir de grandes choses.
Mercredi, qu'est-ce qu'un couple, avec le sociologue Éric Widmer.
Pour un sociologue, la mise en couple, c'est vraiment table sur la question de la création d'une culture commune, à partir de deux cultures individuelles. Les conjoints proviennent de deux milieux familiaux, amicaux, séparés, différents. Mmh. Ils doivent se mettre ensemble, réussir à créer un certain nombre de normes et de valeurs communes qui leur permettront ensuite de faire face à ces séismes que sont l'arrivée des enfants, éventuellement les problèmes professionnels, les maladies, la mise à la retraite. Si cette culture commune ne se crée pas, toutes ces étapes-là seront plus compliquées.
Oui.
Et les sociologues, quand ils étudient la formation du couple, eh bien cherchent à voir comment cette culture se construit en fonction des héritages sociaux, économiques, éducatif des deux partenaires.
Oui. Alors ça se base sur des critères particuliers justement, cette mise et cette mesure du couple.
essentiellement sur des critères de ce que les sociologues appellent l'homogamie ou l'hétérogamie, c'est-à-dire une comparaison des milieux d'origine, une comparaison des orientations religieuses, politiques des deux conjoints, une comparaison des origines nationales, éventuellement des personnes, de manière à voir comment ces différents paramètres ensuite influencent cette constitution de cette culture commune.
Jeudi, de l'électrostimulation à la neurostimulation avec Michel Levenkuen.
Toutes ces nouvelles technologies se basent souvent sur les anciennes observations médicales. Donc, une des observations, c'est effectivement l'effet de l'électricité sur le corps, sur l'organisme et sur le cerveau.
Et la stimulation électrique
La stimulation électrique en particulier, on va probablement en parler tout à l'heure. Donc, il y a toute une histoire autour de l'effet de l'électricité sur le corps. Donc, ça a commencé par Galvani, effectivement. Ce qui est plus étonnant, c'est son neveu, donc Aldini, qui était persuadé en fait que l'électricité est une sorte d'énergie vitale qui pouvait redonner la vie à des corps, en particulier morts. Donc, comme ce cadavre de grenouille qui a commencé à bouger de nouveau.
Il voulait vraiment réanimer les morts ou pas?
Il voulait réanimer les morts, bien sûr, sans succès. Donc, il a beaucoup essayé. Il a fait beaucoup d'expériences très, très morbides, qui étaient en fait de stimuler les cadavres, en particulier de condamner à mort après leur exécution. Donc, il y a un cas célèbre qui est George Foster, qui est un criminel qui a été pendu à Londres. Et donc, le scientifique Aldini donc, a tout de suite stimulé, juste après la pendaison, le visage de cette pauvre personne, et certains mouvements ont été encore vus comme s'il était en train de vouloir dire quelque chose, en tout cas. Donc il y avait effectivement cette fascination, ce fantasme que l'électricité pouvait, d'une certaine manière, renouer des vies. Mm-hmm. Ça a d'ailleurs influencé le roman gothique de Mary Shelley, Frankenstein, le premier des modernes. Donc il y a eu toute cette fantasme autour de l'électricité. Il y a eu des services entiers, par exemple dans l'hôpital où je travaille, la Pitié-Salpêtrière, il y a un service d'électrothérapie qui s'est ouvert Romain Vigouroux et puis Jean-Martin Charcot ont ouvert ce service-là où des centaines de personnes venaient tous les jours aux consultations pour prendre des coups électriques. Donc, pour prendre des bains électriques. Donc, il y avait des bains électriques.
Mais c'est extrêmement dangereux, non?
Extrêmement dangereux. Effectivement, ils ont probablement aggravé plutôt l'état des patients que de les améliorer.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.